I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans cet épisode spécial franco-belge Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales, en crossover avec Les Grenades, qui dégoupillent l'actualité d'un point de vue féministe à la RTBF.
Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais dans Kif Taras, on parle sans complexe de noirs, d'arabes, de blancs, d'asiatiques, de juifs, de musulmans. Et aujourd'hui, dans Kif Taras, nous invitons à l'édition 2021 du Bruxelles Podcast Festival, une initiative collective portée par des passionnés de podcasts ainsi que des professionnels du secteur culturel.
Alors dans cet épisode de Kif Taras, on va faire des allers-retours entre la France et la Belgique. On va parler de féminisme au pluriel, d'antiracisme au pluriel, des médias. Comment est-ce qu'en 2021 on aborde ces sujets dans nos espaces publics? Comment sont traitées ces questions? Quand on est une femme et qu'on n'est pas blanche, est-ce que ces thématiques nous échappent ou au contraire nous sont assignées? Programme chargé en perspective.
Et pour nous envoyer la balle du côté belge, nous avons deux invités, Safia Kessas et Cécile Djunga. Salut.
Bonjour.
Salut. Salut.
Bienvenue parmi nous, avec nous. Vous allez partager avec nous vos expertises respectives sur ces questions. Alors Safia, tu es journaliste, documentariste et autrice fondatrice des Grenades sur RTBF, donc qui est le service public audiovisuel en Belgique. Et tu publies le 4 mars prochain, et on a la chance de l'avoir eu en avant-première, Balance ta grenade aux éditions Luc Pire.
Absolument, c'est
Merci
moi.
Merci d'être
Bonjour.
Là. Et Cécile, alors toi, tu es artiste, comédienne, humoriste, animatrice à la télévision et à la radio. On peut te retrouver en tant que chroniqueuse prochainement, où ça a commencé, je crois, le week-end dernier, dans la nouvelle émission de Michel Simès sur France 2.
Exactement, Antidote, c'est bien de débarquer.
Bienvenue.
Merci les filles,
Merci
c'est un plaisir d'être là.
C'est trop cool.
Ravie.
Et dans Kif Taras, quand on commence, on va parler de questions raciales, on a un petit rituel qui est de vous demander si vous vous situez sur le plan racial. Par exemple, Rokaya est perçue comme une femme noire. Moi, je suis perçue en France comme une femme asiatique. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a traversé? Et si oui, comment vous vous situez? Alors,
Qui commence?
Allez, vas-y, Safia.
Non, vas-y, Cécile.
Ils sont trop polis.
On en parlait juste avant parce que justement, j'avais vu la question. Et moi, je me suis dit, mais j'en sais rien en fait où je me situe. Je ne me suis jamais posé la question. C'est très, très tard qu'est venue cette question de race. Moi, j'ai compris que j'étais noire, je devais avoir 23 ans, en fait. Avant ça, je pensais que j'étais blanche ou que j'étais peu... Enfin, je m'étais jamais posé la question. Et donc, voilà, c'est... Oui, je suis une femme noire, en effet, belge, intermittente du spectacle, ça fait beaucoup, hein.
Tu cumules.
Petite, voilà. Mais... Moi, je suis un être humain et tout simplement une femme du monde. J'aime
et
dire.
Justement, tu dis que la question a surgi dans ta vie quand tu avais 23 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
C'est quand j'ai commencé à chercher du travail.
Ah, bah oui.
Voilà, on y vient toujours.
Les illusions ne peuvent pas durer éternellement.
C'est pas très original. Mais oui, jusque-là, moi, j'avais eu la chance de grandir dans un quartier assez, il y avait vraiment une vraie mixité, voire un quartier quand même relativement aisé. Mes parents, première vague d'immigration, ils sont arrivés, ils ont tout fait pour qu'on soit bien et pour qu'on parle bien français, pour qu'on soit assimilé. Il n'y avait pas cette histoire de race, de racisme. Et c'est quand j'ai commencé à chercher du travail en tant que comédienne et qu'on me collait sur des rôles de noir. Et moi, j'ai débarqué, quoi. J'avais 23 ans et je ne comprenais pas pourquoi je devais faire des accents tout le temps. Et je suis tombée de très haut et j'avais déjà 23 ans, donc ça faisait mal. Et voilà. Et le seul rôle que j'ai eu, c'est quand je suis arrivée au casting pieds nus, mais pour de vrai, hein, avec un foulard en wax sur la tête Et au casting, j'ai fait non, dis donc. Bref, j'en ai fait des caisses, c'était horrible. Horrible, j'ai
et hyper dit, vous êtes hyper dit, authentique.
Oh, mais c'est ça qu'on veut. C'est vrai, c'est ça qu'on cherche. Et j'ai eu le rôle. Et j'ai joué une Bernadette Lafont. C'est mon premier rôle au cinéma, mon dernier rôle au cinéma. Voilà. Donc voilà, c'est arrivé tard.
Ouais, mais souvent ça arrive par la prise. C'est pour ça que Grace pose la question comment vous êtes perçue, parce qu'en fait, c'est pas forcément la manière dont on s'identifie, même si on s'y réapproprie l'identification. C'est ce qu'on nous impose de l'extérieur, quoi. Et effectivement, ouais. C'est l'extérieur qui t'a obligé à te conformer.
Il m'a sorti mon monde de bisounours.
Exactement. Mais on va t'y replonger.
Ah oui, oui.
Parce qu'on est, on met les gens à l'aise dans Kiftara.
Et toi, Safia?
Moi, c'est arrivé beaucoup plus jeune, en fait. C'est arrivé à l'école primaire. Et je me souviens que je faisais la file avec mes petits amis, avec mon petit plateau. Et la cantinière, en fait, m'a dit de retourner dans mon pays à ce moment-là. Mmh. Et donc, d'un coup, d'un seul. Et c'est vrai que ça m'a... À ce moment-là, j'ai vraiment compris que il y avait un regard qu'on portait sur moi qui n'était pas le même que celui qu'on pouvait porter sur les autres. C'était une école en plus, qui était une école catholique qui venait de s'ouvrir aux filles en plus, donc il y avait très peu de filles. Et puis mon père est venu à l'école pour demander en fait ce qui s'était passé, pour comprendre pourquoi j'avais reçu une insulte raciste.
Parce que tu t'es rentrée chez toi, t'en as parlé à tes parents tout de suite.
Ouais, j'en ai parlé à mes parents. Et puis ils sont venus à l'école, mon père est venu à l'école. Et je me souviens, moi, j'étais dans la cour de récréation et mon père, en fait, à l'époque, il portait des chapkas. C'était encore la guerre froide. Et donc, il se sentait sans doute plus proche du camp de l'Est que du camp de l'Ouest, évidemment. Donc, il parlait avec les profs et tout ça. Et puis, il s'en est allé, il s'est retourné et j'ai vu, en fait, les profs rire. Et c'est un moment vraiment, c'est un moment fondateur, en fait, à la fois de prise de conscience de l'altérité et du regard qu'on pose sur toi. Et en même temps, de révolte qui est aussi liée à une humiliation. Mmh. Et puis, finalement, ce regard qu'on porte sur soi, sur l'autre, c'est quelque chose qui s'est évidemment répété de façon récurrente. Et c'est quelque chose vraiment, pour moi, qui a été définitif quand j'ai mis les pieds dans le monde du journalisme. Et je me souviens, au début, je disais à mes collègues, « Bon, ce midi, je ne mange pas avec vous, je vais manger chez mes parents. » Et alors là, il y a un de mes collègues qui me dit en rigolant, bah, j'imagine que tu vas manger un couscous. Ouais.
Et oui, parce qu'on a vraiment le temps de faire des couscous
oui,
tous les midis.
Évidemment, bien sûr.
Effectivement. Ça, pas
et je lui ai dit,
mijoter,
à ce moment-là, dans mon sac, il y a la djellaba. Évidemment, on a pris la musique aussi, parce qu'en même temps, quand on mange, nous, on danse, hein, en même temps, parce que c'est assez, quoi. Exactement. Donc voilà, après, c'est une phrase que je me dis souvent, c'est la phrase, une phrase, c'est le regard que les autres portent sur nous, qui fait qu'on se sent en fait finalement étranger à soi-même, parce que forcément on ne se réveille pas tous les jours en se disant voilà. Et aujourd'hui je me définis effectivement comme une femme racisée.
Et spécifiquement quelque chose ou racisée en général ?
Racisée, spécifiquement quelque chose d'origine algérienne, mais ça s'arrête là. En tout cas racisée, parce que je ne pense pas que les gens se disent, ils se disent elle n'est pas tout à fait de chez nous, mais on ne sait pas très bien d'où. Et en tout cas, on se permet en tout cas de porter un regard, un jugement ou des réflexions qui sont absolument inappropriées.
Mais pour rebondir sur ce que tu dis, si tu peux me permettre, ben moi, c'est récent que du coup maintenant j'ai intégré le fait que oui, ok, je suis une femme noire. Et depuis que j'assume cette chose-là et que je l'ai mentalisée, je vais dire, eh ben, je travaille beaucoup plus, notamment enfin en tant que comédienne ou animatrice. Depuis que j'ai compris en fait que ça pouvait être un atout. Et plus, depuis que je retourne la situation, je veux plus que ce soit un handicap ou depuis que c'est devenu un atout et que je dis ok d'accord, vous voulez me voir comme un quota, vous voulez me voir comme si ok, ben on va jouer le jeu, en fait je vais jouer le même jeu et je vais assumer ça. Et depuis que j'assume, eh ben je me sens mieux en fait. C'est bizarre, mais je me sens mieux et je travaille plus.
Parce que tu ne subis pas en fait.
Oui c'est ça, je ne subis plus. C'est moi qui vais avoir un point d'avance sur les autres par rapport à ça. C'est pas vous qui allez me dire que je suis noire, en fait. Moi, je suis noire et je vais l'assumer. Et en fait, on va tout de suite clore le débat.
Et puis, le côté de « je me sens bien » parce que, en fait, je suis soulagée de ne pas avoir à aborder la question. Enfin, c'est clair entre nous, là, en fait. C'est-à-dire que tu me vois comme ça.
Je me vois
comme si... En fait, c'est que... Vraiment, cette question de la définition, elle est assez centrale quand on est dans le podcast. Et évidemment, moi, je ne me lève pas tous les matins en me disant « Youpi, je suis une femme asiatique !» Enfin, c'est évidemment pas la première chose qui m'arrive dans la tête quand je me lève.
T'as oublié l'accent, quand même.
Ah oui, pardon. Alors, en plus, je suis très, très mauvaise en accent, donc du coup, je voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc d'assumer, de se dire « Bon, bah, de toute façon, on ne va pas y échapper. » Moi, je n'y échappe pas. On me dit « Ni hao » dans la rue. On me dit
« Oui,
oui, bah, voilà. » Non, mais là, ici, nous sommes à Belleville, par exemple.
Ah oui.
quand je sors du métro Belleville et que je viens jusqu'au studio de Binge Audio qui est à côté de...
C'est un quartier asiatique, hein, pour les Bruxellois qui nous
exactement, écoutent. Où il y a beaucoup de communautés qui cohabitent à Belleville, mais il y a aussi une forte communauté asiatique, chinoise en particulier. Et il y a aussi beaucoup de travailleuses du sexe. Je ne peux pas me dire, non, je fais comme si de rien n'était. En fait, c'est-à-dire que je sors du métro, je vois qu'il y a des personnes qui me ressemblent, qui sont là dans l'espace public et qui envoient des messages, en fait, et que ces messages sont reçus. Enfin, pour dire que tant que j'assumais pas, j'avais honte. En fait, je me disais, ah, mais ils pouvaient me prendre pour l'une d'elles. Comment je réagis si, je me disais plein de trucs dans la tête. Ah, est-ce que s'ils me disent ça, mais je réponds ça. tu te fais des tripes. Et en fait, depuis que pour moi, c'est très clair. C'est-à-dire que, elles travaillent. Ce sont des femmes asiatiques, ce sont des femmes chinoises. Oui, moi aussi. Et c'est ainsi. Et il n'y a pas de, voilà. Et en fait, j'ai beaucoup moins d'angoisse, de problèmes psychologiques qui me traversent quand je passe par le métro de Belleville.
Oui, c'est ça, en fait. C'est qu'à partir du moment où tu ne considères pas que c'est humiliant d'être associé à des gens qui sont dignes, en fait, et que tu arrives à accepter aussi en disant, bah oui, si vous pensez qu'on a à voir, oui, on a à voir dans notre humanité, mais moi, je sais que je suis un individu, qu'elles sont des individus aussi.
Mais du coup, c'est une vraie étape, en fait, hein, finalement.
C'est une étape, ouais.
C'est une étape.
Alors toi, Cécile, justement, tu parlais de ta carrière. Tu es vraiment illustrée jusque par-delà la frontière en 2018 en passant un coup de gueule suite à des insultes racistes qui te sont parvenues sur ton lieu de travail. Tu étais à l'époque animatrice météo et tu t'es exprimée par une vidéo qui est devenue virale, qu'on va écouter.
Salut tout le monde. Alors, si vous voulez rire, j'en ai une bonne pour vous aujourd'hui. Hier, au boulot, donc à la météo, il y a une dame qui a appelé pour dire que j'étais trop noire et qu'elle ne voyait rien dans l'écran, qu'on ne voyait que mes vêtements, que je ne passais pas bien à la télé parce que j'étais trop noire et qu'il fallait me le dire. Ça commence à vraiment m'énerver, ce genre de message. J'en reçois, ça ne s'arrête pas. Ça va faire un an que je fais ce métier maintenant et j'en ai marre, en fait, de recevoir des tonnes de messages racistes, des messages insultants. Donc ça commence à me mettre en colère, vraiment. Et puis ça me touche parce que je suis un être humain, en fait, et que forcément, j'essaie de passer outre parce que je pense que je suis quelqu'un qui avance, parce que je veux pas mettre ça en avant, parce que ça reste une minorité bruyante. Mais en fait, c'est plus drôle, en fait. Moi, ça commence à me... Voilà quoi, recevoir des sales négresses rentrant dans mon pays, en fait, c'est pas drôle quoi. Donc en fait, moi j'en ai marre. Là, ça va faire un an que je fais ça, je dis rien. Je veux avancer, je dis rien. Mais là, j'en ai marre, en fait. Donc maintenant, j'ai décidé que j'allais le dire. Parce qu'il y a trop de gens qui pensent que le racisme en Belgique n'existe pas. C'est pas vrai. Des gens racistes, des misogynes, la discrimination, tout ça, ça doit s'arrêter.
Cécile m'a envoyé pendant la soirée toute une série... de messages qu'elle a reçus ces derniers mois et auxquels elle n'avait pas réagi. Voilà, c'est un torrent de boue. Et ce torrent de boue-là, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place en Belgique, il n'a pas sa place dans une société démocratique. Et nous allons faire respecter la loi et envisager dès aujourd'hui toute action pour poursuivre ces personnes. Il n'y a pas d'impunité au racisme. Et quant à la RTBF, elle va continuer, ça nous stimule dans notre politique visant à... exprimer la diversité de notre société dans tous ses aspects et dans toutes ses facettes.
Donc c'était le président de la RTBF qui t'a soutenu.
Ouais, Jean-Paul Philippot, oui.
Voilà, tout à fait. Et donc il y a des dizaines de plaintes qui ont été classées sans suite. Et là, on est vraiment à la veille d'une date importante puisqu'il y a un procès qui se tiendra le 9 mars.
Oui, dans quelques jours.
Est-ce que tu peux nous parler des difficultés que tu as rencontrées pour faire reconnaître et condamner le racisme au niveau judiciaire? Et comment justement t'as appréhendé, enfin t'as fait cette vidéo-là, dans quel état d'esprit t'étais, comment t'as gardé le silence pendant aussi longtemps? Et finalement, est-ce que tu as juste à ce moment-là réalisé ce que c'était d'être... une femme noire dans l'espace télévisuel belge.
Alors cette vidéo, je suis assez émue de les réécouter à chaque fois. Je ne l'ai jamais réécoutée en entier. C'est vraiment un truc que j'ai fait de manière tellement spontanée que je n'ai pas calculé. J'ai posé ça là et ça a eu tellement des répercussions rapides, internationales, que ça m'a dépassée moi-même. Donc là, je suis un peu émue, mais à la base, j'ai fait cette vidéo tout simplement parce que voilà, je m'étais fait insulter sur mon lieu de travail. C'était la énième insulte et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et j'ai tout simplement craqué. Pourquoi j'ai gardé le silence si longtemps? C'est parce que je me disais que... malheureusement, je me disais que j'avais déjà de la chance d'être là. J'avais déjà la chance d'avoir un travail, de travailler à la télévision, et que j'avais fermé ma bouche et que j'avais un petit peu longé les murs pendant tout ce temps-là parce que j'avais peur pour ma place. J'avais peur, je me suis dit que j'allais pas me plaindre, que les gens n'allaient pas me comprendre. Et d'ailleurs, un exemple, quand j'ai posté cette vidéo, j'ai tout de suite eu très peur. Je me suis dit, oh là là, j'ai vu mon patron qui m'a appelé, Jean-Paul Philippot, sur mon téléphone. Je me suis dit, oh, je vais me faire virer.
Ah, c'est horrible.
C'est terrible. Ah, c'est
je me faire virer. Non seulement t'es une victime, mais en plus, non, ouais, tu vas double peine.
C'est ma
quoi.
Première ouais. action. Je rentrais de la météo, j'étais dans ma voiture, je vois son nom sur mon téléphone, et comme j'avais enregistré ça dans les locaux de la RTBF, sur le fond vert, je me suis dit, va me virer, va me dire, mais de quoi tu viens de plaindre, c'est bon, enfin, rentre dans ton pays, enfin, je sais pas. Non, mais, d'ailleurs, elle a raison, enfin, je sais pas, mais j'imaginais tout et n'importe quoi. Ouais. Et il m'a appelé, et tout de suite, il m'a apaisé. Et tout de suite, c'est vrai que le contact, le rapport employé-employeur, qui d'habitude est très formel, et ben là, il était plein d'empathie et il m'a écouté et tout de suite, il a réagi. Et ça aussi, il faut avoir du soutien, ça change tout. Et ce qui a été dur dans un premier temps, c'est l'épreuve en fait. C'est que moi, je voulais pas voir ça. Donc je voulais pas, j'avais pas pris des print screens de tous ces messages-là, j'avais pas gardé les preuves. Donc quand t'as pas de preuves, ben va défendre, oui, un tel m'a insulté, t'as pas de print screen. Et puis même en ayant des print screens, il y a des gens qui changent de compte Facebook, Instagram, on les retrouve plus par la suite. Donc déjà, il faut voilà bien garder ses preuves, bien garder les liens, parce que ça peut disparaître. Et puis après, il a fallu prouver tout ça, il faut porter plainte. Il faut aller à la police, il faut payer un avocat.
Ah, c'est douloureux, quoi. C'est pénible.
Hein. Ouais, moi j'ai eu la chance d'être soutenue par la RTBF, mm-hmm. service public, qui a pris en charge les frais judiciaires. Et il faut quand même le dire, j'ai eu une assistante psychologique parce que j'ai vraiment pété les plombs, en fait. Hein, parce qu'il y avait ça, puis derrière, il y a des gens qui t'insultent encore pire, parce que du coup, ça a remué, en fait, un peu tout ça. Donc j'ai vraiment eu un encadrement que beaucoup de gens n'ont pas.
Mais un encadrement que beaucoup de gens n'ont pas, mais aussi parce que ça a été mis en place, en fait, quelque part. On est fort démunis par rapport au cyberharcèlement et par rapport au racisme sur les réseaux sociaux. Et la RTBF a mis en place toute une procédure. Et en fait, dès qu'on est victime aujourd'hui d'insultes racistes, quelles qu'elles soient, en fait, sur les réseaux sociaux, il y a juste une adresse à activer. En fait, il y a toute une procédure qui se met en charge où on est complètement entouré, pris en charge sur le plan psychologique et sur le plan juridique aussi. Et c'est important. Et je pense que cette histoire a aussi été un catalyseur pour faire prendre conscience de la gravité de la situation et aussi commence à émerger toutes les questions qui sont liées à l'impact psychologique, en fait, du racisme, des micro-agressions. Bon, là, ici, en l'occurrence, c'était violent, mais ça commence à faire son chemin aussi, y compris dans un média mainstream.
Ouais,
ça t'a été utile d'être soutenue, j'imagine, psychologiquement et matériellement aussi.
Quoi. Oui, déjà, moi, j'ai pas d'avocat dans ma vie, tu vois, c'est pas un numéro que j'ai dans mon téléphone, avocat, je sais pas.
Fallait m'appeler.
Speed dial. Donc déjà, moi, je connaissais pas l'avocat, je savais que je vais pas à la police.
A priori, il n'y a pas de raison.
Je sais pas, donc déjà, ça m'a aidée. Et puis psychologiquement, oui. En fait, comprendre que c'est pas moi, le problème ne vient pas de moi. Et pendant 30 ans, j'ai pensé que le problème venait de moi. C'était complètement inverse. La preuve, j'ai eu peur quand j'ai posté cette vidéo. Donc déjà, comprendre que le problème ne vient pas de moi, comprendre que je suis dans mon droit, comprendre que je suis entourée, que je vais pas perdre mon travail, que de me revaloriser, d'être armée, enfin tout ça.
Est-ce que tu as eu des messages de soutien à part le président de la RTBF et tes collègues, des téléspectateurs?
Ah oui, en fait, ça a remué un élan de une prise de conscience mais internationale, parce que j'ai eu des messages BBC World, des choses comme ça, même au Canada, enfin, il y a eu vraiment des répercussions et des messages vraiment de soutien. Donc je pense qu'il y a en Belgique, je dis toujours, je pense que le Belge n'est pas raciste. J'ai vraiment ressenti un vrai soutien. Le problème, c'est que on a une société avec certains fondements racistes qui sont basés sur un pays colonisateur, etc. Mais les gens ont vraiment réagi. Il y a vraiment eu un élan de prise de conscience. Il y a même des gens qui se sont excusés, des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit
à la place des gens, à la place des autres.
Ils m'ont dit mais je me rends compte qu'un jour j'ai déjà dit telle et telle chose.
Ah,
je vous ai déjà envoyé tel et tel message. Je me rends compte qu'en fait, ça se fait pas, ça va pas. Ah oui, il y a eu aussi des prises de conscience comme ça. Et ça, c'est vraiment beau. Je préfère retenir ça que le
maintenant
reste.
Payer des amendes.
Je voulais juste dire que vraiment l'émotion dans cette vidéo quand tu commences et tu dis est-ce que vous voulez rire aujourd'hui?
Je savais pas où j'allais.
C'est terrible. Après, t'es vraiment démunie. Et même là, quand tu dis que la première réaction quand t'es victime de racisme, c'est de penser que c'est de ta faute. Hein. C'est quand même la société qui nous a éduqués, quand on est face au racisme, de penser que ça vient de nous. C'est-à-dire que c'est la première raison.
C'est nous le problème, en fait.
Tu vis
c'est
un
pas
truc
le racisme.
Difficile, qui est terrible. Donc, tu sais même, t'as peur de le dire. Une fois que tu l'as dit, t'as peur qu'il t'arrive un truc. Tout ça, c'est internalisé. Et cet exemple de ce que tu as vécu et comment ça a fait bouger les choses et que ça a mis en place un protocole, quelque chose de plus grand que toi, Bah, ça montre que c'est une réaction saine à comment on doit traiter le racisme dans notre société. Enfin, comment on doit traiter les insultes, les violences, les micro-agressions.
Tu parles de la société, c'est sûr, mais à l'éducation aussi, hein, je pense. Parce que moi, je me suis rendu compte très tard que mes parents, alors je les aime hein, très fort, et je pense qu'ils m'ont très bien éduquée, mais inconsciemment, ils nous ont éduqués en nous disant « on ne fait pas de vagues, on n'est pas chez nous, on longe les murs. On est fiers à l'intérieur, mais à l'extérieur, il ne faut pas trop ouvrir sa bouche. Bon, » mes parents m'ont éduquée comme ça, ce qui fait que c'est pour ça que je n'ai jamais rien dit. Et eux n'avaient pas la possibilité, l'arsenal judiciaire de s'exprimer, de faire entendre leurs droits à l'époque. On est dans les années 70 quand ils sont arrivés. Et mes parents m'ont éduquée comme ça, et c'est pour ça que je ne disais rien quand on ne me maquillait pas avec un maquillage approprié, quand j'avais des remarques déplacées.
J'étais grise comme Rokhaya.
Ah, mais c'est ça. Mais,
parce que,
mais pendant des années, ça a été ça. Et je ne disais rien, j'étais sur ma chaise, je me faisais maquiller, je me disais non, c'est toi le problème, t'es déjà contente d'être là, tu fermes ta bouche, tu sors ton petit blush de ta petite trousse. C'était ça, tu t'écrases, mais parce qu'on m'a éduquée comme ça, parce que mes parents n'avaient pas d'autre choix. Et on parle souvent de la supériorité blanche. Ben moi, j'ai pris conscience à ce moment-là de l'infériorité noire que je ressentais. Mmh. Cette espèce de poids sur les épaules que j'avais ressenti, alors que je me suis toujours considérée comme une femme forte. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je me comportais comme une femme complètement soumise par rapport à ça. Donc, je pense que les parents aussi ont un rôle à jouer là-dedans, quoi. Mmh. Même si j'embrasserais fort ma maman.
Oui, non, non, c'est tous les signaux de la société nous renvoient aussi ces indicateurs. C'est-à-dire que quand tu dis que tu te sentais dans une position où tu aurais déjà dû être contente d'être là, c'est ce qu'on nous renvoie en permanence. Donc c'est vrai que tu t'autorises pas à en dire plus que merci, en fait, quand tu accèdes à une position que personne d'autre n'a atteinte avant toi. Tu vois, donc c'est compliqué. C'est pas seulement tes parents. Tes parents, je pense qu'ils voulaient te protéger.
Oui, oui.
Parce qu'ils savaient très bien que tu allais prendre des coups si tu prenais la parole. Donc ils se disent, bon, bah, effectivement, on va minorer le risque. Et c'est ça aussi, tu vois.
Et là, vraiment, tu touches du doigt, Cécile, vraiment tout ce qui est au niveau de la représentation, des métiers, des vocations. Je pense qu'il y a quelque chose de plus grand. Et toi, Safia, tu es la fondatrice des Grenades à la RTBF. Donc c'est l'équivalent de France TV pour nous et Radio France, où les sujets féministes ont leur place. Et donc là, je suis allée sur le site récemment. Vous avez des prises des paroles, les questions de droits des femmes, de revendications LGBTQIA+, violences sexistes, sexuelles. Enfin voilà, tous les sujets d'actualité qui touchent aux femmes. Est-ce que tu peux nous expliquer la création de ça? Est-ce que c'est venu tout seul? Ou est-ce que tu as dû... c'est une question historique. Est-ce qu'on t'a offert les choses sur un plateau? Ou est-ce que tu as dû...
Évidemment, ça se passe toujours comme ça.
Attends, j'essaye de me relever. Vas-y.
Et comment est-ce
quelqu'un
que tu as fait
passer... Quelqu'un a pris conscience, a dit, mais Safia, il faut que nous parlions de racisme et de sexisme.
C'est ça. C'est hyper porteur comme sujet. Ouais. Il y a toutes les dessous à se faire, ouais, grave.
À fond. Non, mais en fait... C'est vrai que ces questions-là sur la diversité, ça fait longtemps que ça me travaille. J'ai parfois des remarques du genre « c'est normal que ça me concerne, en fait, voilà, la diversité ». Et en fait, la diversité, c'est quelque chose que j'ai appris dans les médias parce que, en fait, on est très très vite formaté une fois qu'on rentre dans un média mainstream. Et on essaye de rentrer dans cette notion du neutre. Et on cherche effectivement l'efficacité de la parole, une certaine manière de parler qui finalement ressemble à quoi ou à qui ressemble plutôt à un homme blanc finalement de plus de 50 ans, issu de la classe moyenne supérieure. On s'en rend pas compte, mais c'est intériorisé en fait, tout ce formatage. Et donc, c'est vrai que moi, quand je suis rentrée dans ce milieu-là, je voyais souvent en fait l'essentialisation. C'est-à-dire que quand on allait interviewer quelqu'un pour parler, que ce soit voilà, des personnes âgées, les femmes, c'était pour les problèmes de maternité, les Arabes, c'était pour les problèmes de racisme, etc. Donc forcément, à un moment donné, moi, je ne me retrouvais pas spécialement dans ces narrations. Et puis, il y a eu MeToo. Et MeToo a été un véritable catalyseur parce que il y a eu une prise en considération non seulement de la parole des femmes, mais aussi une prise en considération de ces sujets qui étaient dans la hiérarchie de l'information, qui étaient au plus bas. Et donc, je dis pas que l'écoute était totale, mais en tout cas, elle n'a fait que croître au fur et à mesure des années. Et puis, moi, m'intéressant de plus en plus à ces questions, je voyais aussi qu'il y avait de plus en plus de médias sur les réseaux sociaux qui étaient en train d'émerger et que je trouvais que nous, en tant que médias de service public, on avait notre place à prendre. Et en fait, forcément, quand j'ai proposé le projet des Grenades avec une grille qui soit intersectionnelle, avec des sujets qui touchent à toutes les questions que tu as évoquées, il y a eu un véritable intérêt. Et en fait, ce qui a vraiment tout facilité, c'est le modèle économique. Parce que, en fait, c'est un projet qui, à la fois, qui est soutenu par la RTBF, mais qui est aussi soutenu par la direction de l'égalité des chances d'une institution francophone en Belgique. donc qui défend ces questions-là. Donc le fait qu'il y ait en fait cette espèce de nouveau modèle économique qui nous permet en fait de faire travailler et d'engager des chroniqueuses, des journalistes qui sont spécialisés sur ces questions-là, mais qui viennent pas forcément du Sérail, ça nous donne à la fois une liberté et en même temps un mode de fonctionnement qui nous permet d'être un peu plus autonome en fait. Et donc c'est ça qui fait que... Mais en fait, en interne, j'ai pas eu au départ, quand j'ai proposé le projet, on m'a pas dit non, mais quelle horreur, ne le fais pas. On m'a dit non, c'est une bonne idée.
Et on a de la chance de t'avoir, d'ailleurs, à la RTBF.
Voilà, merci beaucoup, merci de le dire.
Non, on a de la chance d'avoir une personne qui est dédiée à ça. Elle veille, en fait, elle veille à ce qu'il y ait de l'égalité, de la parité, de la diversité. Et c'est important. Et quand je suis pas contente, je viens chez toi.
Absolument. Et après, on essaye d'avancer ensemble, de dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire aussi pour avancer ensemble? Et c'est ça qui est important aussi, c'est de se solidariser, puis de trouver une manière de s'exprimer aussi. Parce qu'en fait, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est que un média comme celui-là, ou un projet d'information comme celui-là, le plus important aussi, c'est de réussir à parler à une audience qui est pas forcément convaincue. Et ouais, de trouver les leviers aussi pour le faire. Parce que finalement, sinon, on se retrouve dans une bulle. Après, dire que tout est rose, pas toujours, parce qu'on a parfois des gros débats avec des journalistes, d'autres journalistes qui se disent qu'on est parfois peut-être trop partisane, alors que forcément, eux, ils sont à fond dans l'objectivité et la neutralité.
Forcément. C'est au-dessus de tout soupçon, considération.
Exactement, voilà, ils savent comment cadrer tout ça, et nous en fait, on n'est que des femmes, et tout ça, on ne sait pas trop. Mais voilà, mais donc, parfois, il y a des moments de tension, mais qui font partie du jeu, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de se dire, ce qui est important, c'est d'accepter aussi ces moments de débat, même s'ils ne sont pas évidents, parce que le but, c'est d'aller toucher un public qui n'est pas le public convaincu pour moi, et ça rentre dans nos missions de service public. C'est pas être dans une bulle simplement, voilà, où on est dans un entre-soi. On peut le faire, mais il faut trouver des leviers et des modèles aussi d'inspiration.
Toi, tu dis souvent ça, Rokhaya, aussi, comme tu travailles à la télévision française et à la radio française. Tu dis que souvent, quand tu parles pas pour convaincre les personnes qui sont autour de la table, qui débattent avec toi, mais c'est pour le public qui t'écoute, qui est plus large que les personnes qui sont avec toi. Et toi aussi, tu reçois des insultes. Oui. Elle ouvre des grands yeux là.
Et d'ailleurs, si tu peux me permettre, parce que c'est la première fois que je te rencontre, vraiment bravo. On parle de mon histoire, mais moi c'est pas grand chose à comparer à ce que toi tu reçois. Et puis moi maintenant les gens ils ont peur de moi, maintenant les gens n'arrivent plus rien, tu vois. Les Belges sont plus calmes, je pense, que les Français.
Ouais, les Français sont un petit peu voilà.
Qu'est-ce que t'en fais alors de
mais
ça
vraiment, bravo quoi.
C'est une vraie question parce que déjà il y a plein de choses, c'est que je participe à des débats parfois, même dans le cadre des débats, il y a une forme d'hostilité en face de la table. Et donc moi je me suis posé la question de pourquoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi la première année, c'est que tu dis il y a des gens que tu ne les rencontres jamais dans ta vie. Donc pourquoi tu vas leur parler et essayer de discuter avec eux de thèmes qui te tiennent à cœur? Parce qu'en fait il y a des gens pour qui le débat c'est une joute. Mais c'est vrai que moi quand je parle de racisme ou de sexisme, c'est ma vie en fait. Et je sais que quand on parle de violence policière, les victimes de violence policière sont potentiellement des gens de mon entourage. Donc c'est pas une question théorique ou juste un truc comme ça de rhétorique où on va débattre d'un sujet pour avoir la meilleure punchline. Moi c'est vraiment une question de vie ou de mort pour certaines personnes que je suis type de connaître. Donc il y avait ce truc-là de l'enjeu en fait émotionnel et affectif personnel de pourquoi. Et ce qui m'a convaincue du fait qu'il fallait que je poursuive, c'est de voir des gens dans la rue me remercier en fait et me dire en fait vous ne nous voyez pas, mais en fait nous on vous soutient. Et c'est hyper touchant parce que moi ce que je me dis maintenant, c'est que je ne parle pas aux gens qui sont autour de la table, mais s'il y a une seule personne qui me regarde et qui est d'accord avec moi, c'est à cette personne que je parle. Parce que je veux que cette personne se sente représentée autour de la table. Et du coup, ça me motive parce que je me dis, de toutes les façons, les gens qui sont conservateurs autour de la table, bon, il n'y a pas toujours que des conservateurs, mais souvent, je ne les convaincrai pas, mais...
Toi, t'es dans des débats.
C'est vrai que je suis dans des...
Franchement, parfois, je me dis, mais pourquoi elle a été là-bas? Et le courage, toi, t'es dans des embuscades.
Après, c'est là.
Non, franchement, tu vas dans des endroits. Moi, je suis dans mon fauteuil, je regarde, je me dis, mais comment elle est encore debout?
C'est la télévision française, en fait. C'est que c'est comme si mon arrivée, c'était un peu une espèce d'accident. Et que du coup, même ta présence, ma présence en tout cas, provoque une espèce de réaction épidermique. Ouais. C'est-à-dire qu'indépendamment de ce que je dis, ils sont vénères que je sois là, au même endroit qu'eux. Et du coup, il y a ça. Et puis après, c'est être une femme noire et en plus défendre des positions antiracistes et antisexistes, mais pas sur un mode années 80, on va faire une farandole autour de la Terre et puis tu diras bien. Tu vois, c'est vraiment essayer de dire les choses
mais ça,
autrement.
Les gens veulent pas l'entendre.
Ils ne veulent pas l'entendre. Non. Et surtout d'une personne qui, comme toi, en fait, comme tu le pensais, devrait être reconnaissante. Les gens se disent, mais attends, la meuf, elle est là, elle devrait être contente. Pourquoi en plus elle se plaint? Mais je me plains pas pour moi.
Ils veulent pas que tu trouves des solutions, en fait.
Ils veulent pas, en fait, que tu
rapportes
que tu questionnes leur position. Et après, pour la question des insultes, au début, c'était hyper choquant. J'étais hyper choquée au tout début, je me disais mais... Et en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est que la première menace de viol... J'ai porté plainte. Enfin, celle que j'ai vue, hein, j'imagine qu'il y en a que j'ai pas vue, mais j'ai vu des trucs de fou. Hein. C'était l'année dernière, j'ai vu un forum de gens qui débattait de si, comment il me tuerait. Et donc, t'avais tout plein de gens. Alors, est-ce qu'on peut la violer? Enfin, c'était horrible. Tout un débat de mecs qui se demandaient comment il me tuerait, en fait. C'était, franchement, c'était incroyable. Tu sais, cette espèce d'imagination, mais de l'horreur, quoi. L'escalade dans l'horreur et tout. Et en fait, dès que je peux, je porte plainte. J'ai fait condamner plusieurs personnes pour menaces de mort, menaces de viol. Et puis après, il y a la question de... Il y a l'autre truc. Il y a aussi des fois des personnalités publiques qui m'injurient. Et là, je porte plainte aussi. C'est-à-dire que c'est pas forcément menaçant, mais dans le cadre de débats ou sur Twitter, qui s'en prennent à moi dans des propos injurieux. Et là, systématiquement, je menace. Mais je veux dire, là, aujourd'hui, j'ai 7 plaintes en cours.
Ça n'a pas modifié ton
sept
rapport
plaintes. Au... 7, ouais. Ah oui. 7 plaintes en cours.
Moi, tu me bats. Moi, j'ai un petit procès, là. Mais c'est un petit truc qui arrive. Ouais, ouais. Ça n'a pas modifié ton rapport aux réseaux sociaux?
Disons que ça, en tout cas, par rapport à Twitter, ça me fait réfléchir à la manière dont je tweet, parce que des fois, t'es dans une conversation, tu te rends pas compte qu'un tweet peut être isolé et être lu complètement autrement. Donc, c'est vrai que maintenant, quand je tweet, je pense à ce que veut dire le tweet tout seul, sans la conversation qui est autour.
Dis ça à Trump seulement, parce que lui, il a pas compris comment il fallait tweeter.
Ouais, mais donc, voilà. Mais c'est vrai que je me dis quand même que j'ai la chance d'avoir les moyens, en fait, de porter plainte, les moyens psychologiques. Mentaux, puis après les moyens matériels d'être accompagnés par les avocats qui, voilà, mais c'est compliqué. Puis moi aussi, il y a des gens qui portent plainte contre moi.
Ah,
tu vois, donc t'as aussi des gens qui sont intimidés. Là, j'ai deux personnes qui m'ont attaqué. Donc il y en avait une qui m'avait attaqué, une mère, mais avec de l'argent public. Toi, c'est la RTBF, l'argent public te soutient, moi, c'est l'argent public qui m'attaque. Donc j'ai été relaxée, mais c'était complètement fou parce que je me dis, mais attends, t'es mère, je suis journaliste, donc liberté de la presse, tu m'attaques, tu perds, donc tu gâches l'argent des gens comme ça.
Contribuable.
Pour rien, mais ouais. C'est de l'intimidation en fait, tu vois. Et c'est parce que tu as dit un truc, et en tant que journaliste, je trouve que symboliquement c'est fort, et ils t'attaquent pour t'intimider.
Ouais, d'accord.
Tu vois, donc c'est. Voilà, il faut naviguer quoi.
Voilà, bravo en tout cas.
Bah merci. Et du coup, dans
l'espace public, le fait qu'il y ait du racisme et du sexisme, ça affecte durablement à la fois les personnes qui sont les journalistes là autour de cette table et aussi le public. Parce que d'écouter, d'entendre du racisme et du sexisme à longueur de journée, ça ne laisse pas les gens intacts, ça ne laisse pas les personnes indemnes. Et on va écouter un son d'une affaire qui a eu lieu en Belgique, mais qui a aussi... était inspiré de faits français.
Cet homme était immergé dans le discours raciste de l'extrême droite, engagé même au parti d'extrême droite qui était le Vlaamse Blok à l'époque, et qui est devenu le Vlaams Belang. Petit à petit, il s'est dévoilé clairement, et puis là on voit clairement que ça ne lui plaisait pas qu'on soit là. Donc c'était chaque jour quelque chose. Hein. Toutes les raisons étaient possibles. Enfin, il imaginait toutes des situations pour entrer en confrontation avec nous. Et on appelait la police, on avertissait les autorités. On a vraiment, mais sans cesse, appuyé le fait que c'était vraiment du racisme et qu'il fallait agir, sinon ça allait devenir grave. Donc, jusqu'à ce que le pire se produise, le 7 mai 2002, c'est un lundi. 7 mai 2002. À 4h du matin, il défonce la porte et il commence à tirer partout. Chacun a une part de responsabilité sur la manière dont le racisme, l'extrême droite, prend du terrain. On a dénombré plusieurs cas similaires. Il y a eu des attaques au Canada. Aujourd'hui, c'est la Nouvelle-Zélande. Avant, c'était mes parents. Demain, on ne sait pas encore. Enfin, demain, il y aura encore d'autres histoires similaires qui vont se. Enfin, d'autres crimes, d'autres tragédies similaires qui vont se produire. Je me demande jusqu'à quand, en fait, on va réellement prendre ça au sérieux. Faire ce travail de mémoire, c'est rappeler que personne n'est à l'abri d'un acte aussi grave. Personne n'est à l'abri d'un autre 7 mai 2002.
Alors Safia, il y a une affaire emblématique qui a eu lieu en Belgique, c'est l'affaire Isnasni. Donc la voix qu'on vient d'entendre, c'est la voix de Kenza Isnasni, dont les parents ont été assassinés le 7 mai 2002, au lendemain du second tour de l'élection présidentielle en France où Jean-Marie Le Pen faisait face à Jacques Chirac. Ses parents ont été tués par un homme qui se revendiquait d'extrême droite et qui était déçu par la défaite de Jean-Marie Le Pen en France. Et donc c'est un crime raciste qui a frappé la Belgique.
Absolument, c'est un crime raciste qui a eu lieu en 2002. Et ici, c'est les grenades qui donnent la parole à Kenza, la fille qui est une survivante.
et qui à l'époque avait 18 ans. Et en fait, depuis, elle milite pour éveiller les consciences, dire qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau 7 mai 2002. Et c'est une femme qui est hyper courageuse. Et nous, on sert aussi à visibiliser ce genre de propos et ce genre de combat. Aujourd'hui, voilà, la justice n'a pas pu, puisqu'en fait, le gars d'extrême droite qui a assassiné ses parents s'est donné la mort ensuite. Et ce qui est intéressant et préoccupant avec cette histoire, c'est tous les liens avec le racisme systémique, les liens qu'il y avait avec la police à l'époque de Schaerbeek, qui était une police qui était assez gangrénée par le racisme. Il y avait un commissaire notoirement qui était connu pour être d'extrême droite et qui fréquentait l'assassin des parents de Kenza. Donc je veux dire, en fait, c'est aussi ça qui est intéressant dans cette histoire, c'est que rien n'est arrivé par hasard et qu'il y a eu une véritable banalisation, en fait, de toutes les plaintes qui ont été déposées et qu'aujourd'hui, on se retrouve près de 20 ans plus tard et que finalement, il y a encore des crimes similaires qui sont commis et on essaye d'être vigilant et de donner la parole et de l'écoute en fait à ce genre de propos.
Moi, ce que je trouve étonnant dans cette affaire, c'est que le deuxième tour de l'élection présidentielle avait lieu en France. Et je me demande dans quelle mesure les Belges et la Belgique sont à ce point attentifs à ce qui se passe en France.
On vit,
tu vois, c'est
avec
non,
vous.
Mais c'est fou parce que je te dis que ça provoque un crime raciste, c'est fou. Et y a, effectivement, j'ai entendu dire qu'il y avait un dicton qui disait quand la France s'enrhume, la Belgique éternue. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est que même nos débats qu'on peut avoir sur le voile, etc., que quand il y a un débat ici, directement, il est exporté dans les débats belges. Et c'est très étonnant, en fait.
Un peu, quand même. Mais ici, il y a d'autres éléments qui ont influé sur le comportement de cet assassin. Il y avait effectivement les attaques de 2001 qui ont aussi été un catalyseur.
Le 11 septembre,
en fait. Ouais, tout
aux
à fait.
États-Unis.
Ouais. Donc ça aussi, ça avait été un catalyseur pour lui. Ça avait été déjà à ce moment-là, ça l'avait complètement rendu dingue. Et il espérait effectivement que quelque chose allait changer en France. Forcément aussi, je pense qu'aujourd'hui, c'était pas le cas à l'époque, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus vraiment de frontières, en fait. Donc, où qu'on soit, ça peut être Trump, ça peut être les débats français, effectivement. Donc, on voit bien que ces influences-là sont beaucoup plus fortes qu'auparavant. Voilà. Mais donc, j'ai pas de. Moi, je suis plus dubitative sur le fait que tout ce qui se passe en France influe complètement sur la Belgique. Voilà. Ce dont je me souviens maintenant avec Le Pen, c'est que je crois qu'il était venu rendre visite justement à ce fameux commissaire de police à Schaerbeek. Donc, c'est possible qu'il y avait des liens qui étaient plus forts et on avait eu une visite effectivement de Jean-Marie Le Pen en Belgique. Donc, c'est une bonne question, en effet.
Moi, personnellement, en tant que personne asiatique, je me suis bien rendu compte depuis un an que des événements qui avaient lieu à Wuhan, dans une province dans laquelle je n'ai jamais mis les pieds en Chine, elle a affecté durablement des personnes qui vivent ici et qui ne connaissent pas du tout ce pays. Le racisme anti-asiatique, il y a un hashtag qui s'appelle Stop Asian Hate qui est en cours aux États-Unis parce qu'il y a des violences qui ciblent des personnes âgées asiatiques dans la rue, qui reçoivent des coups, qui sont mis à terre. Et je me suis dit, mais ça veut dire que non seulement l'épidémie circule, donc ça c'est un fait, on ne peut pas, voilà, c'est un virus, mais le racisme, la haine circule aussi de la même manière à travers les frontières. Et donc moi qui suis française et qui vis en France depuis toute ma vie pratiquement, dès que ça fluctue en Chine, je peux me prendre un battement d'aile ici, quoi. Donc c'est à quel point ça c'est connecté tout ça.
Ouais. D'ailleurs, les chiffres disaient que les crimes racistes à l'égard des Asiatiques aux États-Unis ont grimpé à New York de 1900% en 2020 à cause de l'épidémie. Donc ça montre vraiment l'impact de la perception des personnes d'origine asiatique du simple fait de ce virus qui est né à Wuhan en
1900%.
Non, mais c'est juste, c'est vertigineux en fait. Non, c'est vraiment. On va écouter
un autre son des grenades.
Moi, je suis de la Guinée. Ce pays, c'est un pays qui brûle aujourd'hui. C'est un pays instable. Si on vient dans ces pays-là, on vient pour la sécurité. On nous a dit qu'ici, il y a le droit de l'homme. Chez nous, dans nos pays, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et ici, on se confronte à une autre violence qui est institutionnelle. Il y a des patrons véreux qui t'exploitent. Il y a des personnes qui te violentent. Il y a des femmes sans papier aujourd'hui qui sont dans leur colocation, qui sont exploitées sexuellement. Les femmes sans papier subissent toutes sortes de violences. elles n'ont même pas le droit d'aller se plaindre.
Alors c'était Bintou Touré qui a été interviewée par Les Grenades, qui est porte-parole de la voix des sans-papiers.
Absolument.
Et donc elle parle des droits humains, à la fois les violations des droits humains qui ont lieu dans des pays d'où elle est originaire, donc la Guinée, et il y a aussi la violation des droits humains qui se passe sous notre nez, là où nous vivons, et qui, donc ce sont deux formes, enfin c'est différent, donc il y a des choses très graves qui arrivent dans les deux cas, et c'est la perception en fait de ces violations qui est traitée différemment dans nos médias, et la manière dont le féminisme s'exprime à l'encontre des violences qui touchent les femmes sexistes et sexuelles, par exemple en Guinée, et celles qui touchent les femmes ici sur nos territoires, qui peuvent être de l'ordre aussi de violences sexistes et sexuelles, mais différemment. Ça, ce traitement-là, comment est-ce qu'aux Grenades, vous l'abordez ?
Mais je pense que tu as tout résumé, c'est-à-dire que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de visibiliser l'invisible, c'est que ces femmes-là, qui sont des femmes qui sont sans papier, elles sont vraiment au bout de la chaîne, en fait, de la visibilisation et de la représentation. Et quand c'est la journée internationale, en fait, des personnes réfugiées, la plupart du temps, en fait, le parcours de ces femmes est invisibilisé dans les médias. Donc nous, on va toujours mettre une grille genre pour permettre l'expression de ces voix qui sont vraiment en bout de course. Et c'est vrai que c'est en plus rare d'avoir une femme sans papier qui va prendre la parole. Et puis, je trouve aussi que la manière de lui donner la parole dans toute sa dignité, parce qu'en fait, il y a d'autres aspects dans la vidéo où Bintou s'occupe aussi de tous les problèmes, de toute la gestion en fait de cette habitation, de cette occupation qui est une occupation illégale mais qui est tolérée par l'arrondissement chez nous. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de donner de la voix aux invisibles et de garder toujours cette grille de lecture en tête quand on appréhende une problématique et quelle qu'elle soit en fait. Alors je dis pas toujours qu'on réussit à le faire, mais
vous essayez au moins.
On essaye de le faire. Et alors, la chouette nouvelle qu'il y a eu entre temps, c'est que Bintou a eu ses papiers. Donc, elle est passée. Voilà, elle peut maintenant se soigner. Elle peut vivre une vie un peu plus décente.
Et continuer à mettre la lumière sur celles qui ont moins de chance qu'elle, avec une forme de sécurité. Donc ça, c'est aussi
absolument
une très belle nouvelle.
Et puis qu'il y a de l'espoir, quoi.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et est-ce que tu rencontres des problèmes, Safia, par rapport aux Grenades, avec l'utilisation du mot intersectionnalité ? Parce que nous, parfois des réactions médiatiques assez virulentes contre l'importation, soi-disant, de théories états-uniennes, américaines, sur l'intersectionnalité. C'est le racisme qui serait inhérent aux États-Unis, mais qu'on ne connaîtrait pas en France. Est-ce que c'est quelque chose qu'aux Grenades, vous avez été confronté à ça ?
Très peu, en fait. Honnêtement, parce que je pense qu'on fait un travail de qualité, j'ose le dire, que nos articles sont toujours sourcés, recoupés, et que mettre une grille intersectionnelle dans un sujet, en fait, c'est donner la parole à toutes avec des réalités différentes. Et donc, à partir du moment où c'est traité correctement, et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de trouver des points de convergence. Donc, ça veut dire qu'il y a des questions sur lesquelles on va pouvoir trouver des points de convergence avec d'autres féministes qui ne partagent pas forcément cette grille de lecture-là, par exemple. Notamment sur la question de l'avortement. Là, on va trouver des points de convergence et on va pouvoir travailler ensemble. Donc, on crée aussi des ponts. Une grille de lecture intersectionnelle, ça ne veut pas dire qu'on est entre soi et qu'on essaye toujours de travailler dans l'ouverture et de créer des ponts. Et à nouveau, on laisse aussi le débat se faire. C'est vrai qu'on avait publié un article sur la colonialité et sur la manière dont la colonialité impactait en fait le féminisme et donc les féminismes. Et donc là-dessus, c'est vrai qu'on a eu des réactions un peu virulentes où quelques personnes nous ont dit qu'elles se désabonnaient. voilà. Mais
c'est souvent les gens qui ne sont pas abonnés qui disent ça.
Oui, donc voilà. Donc je pense qu'on a découvert à ce moment-là. Et voilà. Et en même temps, c'était une grille de lecture qui était intéressant d'entendre et c'est à nous de le porter, donc on l'assume, on débat. Et puis il y a d'autres sujets, et puis de toute façon, voilà. Puis un sujet souvent chasse l'autre. Mais je pense que on n'a pas le même dispositif narratif chez nous qu'en France. Parce qu'en France, quand on regarde les débats, ils sont effectivement très, très manichéens. C'est fou, quoi. C'est vraiment... et c'est le cas de le dire.
Même en politique.
Oui, non, mais voilà. Mais c'est vraiment... On voit bien dans le dispositif, c'est vraiment avoir une contradiction. Et je pense qu'à terme, c'est pas bon pour le monde médiatique parce qu'on a besoin de nuances, on a besoin de profondeur et encore plus aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai que... Sur les plateaux en France, c'est presque terrifiant. C'est vraiment, on va chercher les profils les plus éloignés possibles, alors qu'on pourrait approfondir des questions. Et au sein même d'une question, on pourrait avoir des contradictions. Donc oui, je trouve qu'il y a quelque chose que j'espère que nous n'allons pas vivre, en fait.
Après, je pense que c'est aussi culturel. Je pense qu'en France, on a aussi cette culture de l'antagonisme, de la joute, qui fait que...
Le café des sports, quoi.
C'est ça. Donc, je pense qu'il y a plein d'autres pays qui sont choqués de voir le niveau, en fait, de colère, parfois, qui peut s'exprimer dans les débats, qu'on ne voit pas ailleurs, parce que c'est vraiment spécifique aussi à la manière dont on peut parler en France. Des fois, même dans les familles, des fois, dans les dîners de famille, les gens s'emportent et tout. Puis après, ils se retrouvent pour le dessert, quoi.
Il y a toujours un gars qui... le mec qui dit quelque chose juste parce que t'es contre.
Ouais, on le connaît.
Je voudrais vous poser aussi une question, parce qu'on est dans un festival de podcasts, et c'est une question qu'on me pose souvent quand, d'ailleurs, des apprentis journalistes ou des personnes en formation, qui me demandent si les podcasts, dans le paysage féministe, antiraciste et la lutte contre les discriminations de manière générale, est un format privilégié pour l'expression des personnes minorisées en marge, parce qu'elles n'auraient pas de place dans... les médias les plus mainstream, sauf à la RTBF, puisque il y a vraiment une plateforme. C'est important de le dire, parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez rare. Et est-ce que vous écoutez des podcasts parce que vous y trouvez une parole qui est spéciale?
Je pense que dans les podcasts, c'est quelque chose de très libéré, quoi. Les gens créent leurs podcasts, ils sont libres. Quand on travaille dans les médias, y a toujours un rédac-chef qui va dire « Ouais non, dis pas ci, dis pas ça, fais pas ci, fais pas ça ». Donc, je pense qu'il y a une vraie liberté de ton, un vrai choix des thèmes qui amène déjà des points intéressants. Et puis ensuite, dans les podcasts, il y a aussi des podcasts consacrés, justement, tu parlais tout à l'heure, à essayer de convaincre les gens qui sont un peu plus sceptiques. Je pense notamment à « Semblant de rien », un podcast qui parle aussi aux Blancs, en fait. Essayer de leur faire comprendre, en fait, ce racisme-là, pour qu'ils essaient de comprendre comment est-ce qu'on peut, ensemble, faire évoluer nos comportements, et pour pas que eux se sentent aussi persécutés là-dedans, parce qu'ils y comprennent rien. Moi, j'ai eu pas mal de discussions avec des amis blancs, qui, à un moment donné, surtout pendant la période du Black Lives Matter et tout, dit mais je comprends pas ce qui se passe, en fait. Je me sens attaquée, je suis pas raciste.
Je me sens coupable.
Non, mais il y a juste un mec noir qui est mort. Enfin, moi, je trouve ça un peu déplacé.
Non, mais en fait, je vois ce que tu veux dire, mais... J'ai aussi essayé de discuter avec des gens qui, ils sont pas mauvais, ils sont pas bêtes, ils sont pas racistes. C'est juste qu'à un moment donné, justement, il y a ce déclic de réflexion, parce que toi, tu lis, tu t'instruis, tu es autant, tu écoutes, tu es sensible à cette question-là, mais il y a, nous aussi, on est tout autour de cette table, il y a plein de gens qui sont pas là-dedans, et que ça dépasse complètement, et qui sont non racistes, et qui comprennent aujourd'hui qu'ils doivent être antiracistes, et qui peuvent l'être, et en tant que blancs, ils peuvent prendre part à cette marche-là sans se sentir persécutés. Mais s'ils ont été éduqués dans un climat où il y avait, le racisme avait sa place, où, ils y comprennent rien, et je pense que...
Et je pense que c'est l'habitude aussi d'être toujours au centre de la discussion. Oui. Et tout d'un coup, quand tu n'es plus au centre et qu'on t'interpelle, mais en tant que possible bénéficiaire d'une discrimination, tu te sens attaqué parce qu'en fait, on attaque ta position que tu estimais naturelle.
Oui, c'est ça.
Donc c'est ça, en fait. Et c'est vraiment cette difficulté-là, tout d'un coup, de se décentrer, quoi.
Je pense qu'il y a la démarche. Évidemment, s'ils ne comprennent pas sur la longueur, là, ça c'est de trop. Mais il y a la démarche. La démarche, c'est de comprendre. Et du coup, il y a des podcasts qui servent à ça. Et je pense que c'est important aussi de souligner ces podcasts-là.
Moi, je trouve que le podcast, ce qui est intéressant, c'est l'intime et l'universel. C'est-à-dire que c'est un lieu où on peut avoir des expériences et on va comprendre en fait qu'elles sont universelles. On va peut-être se sentir aussi moins seul. On a le droit de partir de l'intimité. Je trouve que c'est vraiment important parce que dans les médias mainstream, quand une femme journaliste va parler, par exemple, de violences sexuelles ou va parler de sexisme, elle va s'imposer à elle-même de faire comme si ça n'existait pas en fait et que ça ne la concernait pas. Alors que forcément, quand on connaît les chiffres, forcément que statistiquement, ça peut la concerner et qu'il n'y a pas de mal par rapport à ça et que quelque part, ça va la rendre encore plus compétente de pouvoir traiter une question qu'elle connaît. Pour moi, le fait de pouvoir s'affirmer dans un podcast, je pense que c'est vraiment fondamental. L'autre aspect qui est vraiment important, c'est le côté léger, en moyen léger. Et donc, ça veut dire que des personnes qui n'ont pas accès à des caméras, à des moyens de production, à des rédactions de dossiers qui sont souvent faites pour décourager les gens et avoir toujours les mêmes, qui savent être exactement comment rédiger des dossiers pour avoir la thune, ça permet de se former et de s'exprimer. Après, je pense qu'à un moment, il faut qu'il y ait une prise en charge, pour moi, des médias mainstream, de certains podcasts, pour faire évoluer les jeunes qui veulent se lancer là-dedans et en faire quelque chose. Il y a eu des exemples, notamment en Suède, avec une radio qui était spécifiquement dédiée aux cultures urbaines et on faisait en fait évoluer les jeunes vers des rédactions mainstream. Je pense que ça, par contre, il faut à un moment donné qu'il y ait des leviers, quoi. Mmh.
Et enfin, voilà. Un tremplin pour quelque chose de...
Oui, je pense, parce qu'il faut que ces discours-là soient entendus par le plus grand nombre, parce que forcément, le podcast, c'est un peu la continuité, c'est une autre forme de radio que tu consommes, mais c'est un lien intime. Et que tu vas chercher une bulle de réconfort, tu vas prendre tes écouteurs et te balader, enfin voilà. Mais donc, je pense que c'est ça qui est important. C'est qu'à un moment donné, il faudrait peut-être réfléchir à quelque chose de plus structurel pour agréger ça et l'élargir et toucher le plus grand nombre et faire évoluer aussi les personnes qui se lancent là-dedans, quoi.
Alors nous, on est justement dans une position intermédiaire puisque effectivement, on n'est pas de la radio, mais on est produit par une organisation, enfin une société qui s'appelle Binge Audio. Donc on a quand même une rédaction en chef. Et alors, on a vraiment une marge. Et comme tu le dis, Safia, on part depuis nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se pose avec l'expérience et l'expertise et on n'a pas de problème en fait à se situer par rapport au sujet qu'on traite et on ne prétend pas du tout à la neutralité. Donc ça, c'est vrai que c'est une particularité qu'on retrouve beaucoup au niveau des podcasts. Et c'est vrai que sur ce que tu disais par rapport à Semblant de Rien, qui est un super podcast belge qui parle beaucoup de blanchité, nous, à Kiftaras, on reçoit énormément de mails de personnes blanches qui se situent en nous écrivant et qui disent beaucoup apprendre en nous écoutant. Donc ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où tu choisis de le faire avec la sincérité en parlant depuis toi, tu peux parler à tout le monde et il y a des gens qui très humblement en fait prennent le temps de nous écouter. Et des gens qui partent de zéro sur les questions raciales qui me disent mais vous nous avez ouvert vraiment un univers qu'on ne soupçonnait pas parce que c'est des questions qui ne nous concernaient pas. Ouais. Et ça, pour nous, c'est vraiment hyper gratifiant. D'ailleurs, on ne vous répond pas beaucoup, mais on vous lit attentivement.
À chaque fois, on s'excuse.
Voilà, mais... c'est ça. Un jour, on va prendre une semaine de RTT et on va répondre à tout le monde.
Mais Binge Audio, c'est le modèle, je pense justement que c'est ce modèle alternatif.
Absolument.
On est vraiment là où il faut être.
On est vraiment produit.
Absolument, voilà, bien sûr.
On est accompagné, on est produit, mais on est libre en même temps. Exactement. Eh bien, on a des questions, non?
Ouais, on a des questions du public, justement. Ouais. Là, on va vous répondre.
On n'a pas le choix. On a 5 minutes pour vous répondre, mais on va le faire.
Alors, on a une question de François. Est-ce que les grenades, depuis leur arrivée à la RTBF, ont un impact sur l'ensemble de la rédaction ou vous sentez que vous êtes une présence dérangeante, entre guillemets?
On a un impact parce qu'on a pas mal d'échanges en fait avec la rédaction et il y a des moments où on insuffle des sujets où on nous demande des conseils pour traiter correctement des sujets. Donc, on fait pas l'unanimité, mais on n'est pas les seuls à ne pas faire l'unanimité. Il y a d'autres projets à la RTB qui ne font pas l'unanimité et c'est très bien comme ça. Et vive la démocratie.
Et ça me fait penser à cette question, la réponse que tu viens de formuler, Safia, au livre d'Alice Coffin et dans le livre d'Alice Coffin, elle fait mention
Le génie lesbien, ouais.
En 2020. Elle dit que la diversité, c'est pas juste pour faire joli, elle dit que c'est pour rendre les rédactions meilleures. Et en ce sens, les rédactions devraient s'emparer de la question de la diversité, pas comme étant quelque chose de politiquement correct.
Ou un quota.
Exactement. Ça, ouais. Mais c'est parce que ça rend leur programme meilleur, plus riche, plus proche du réel des personnes qui les écoutent.
Mais je dirais même plus que ça, c'est presque un enjeu de survie, en fait, la diversité. C'est-à-dire que aujourd'hui, par rapport à l'évolution du monde des médias qui est de plus en plus international, où forcément on est dans un modèle concurrentiel qui est hyper violent, ça veut dire qu'il faut s'ancrer dans sa société. Ça veut dire de nouveau, il faut travailler sur cet universel et sur ce particulier, ce local. Et c'est quoi le local? C'est la société dans laquelle on vit. C'est quoi le local? C'est les parcours incroyables de gens qu'on connaît pas parce qu'on est dans nos routines. Et donc, à partir du moment où on arrive à sortir de nos biais et de nos routines et qu'on met des choses qui doivent être vraiment des vraies stratégies en fait, hein, la diversité, on peut tout de suite oublier si on veut la faire de façon... Le gars qui vous dit la diversité de façon, on y arrivera de façon naturelle, Ok, il ne faut même pas l'écouter, il n'a rien compris. Donc il faut vraiment se fixer des objectifs clairs. Et je pense que c'est plus que ça. Donc pour moi, c'est un enjeu de survie, quoi.
Alors il y a une autre question d'Angélique. Je te laisse la lire parce que je suis myope.
Alors. Donc tu ne réponds pas aux gens,
je suis myope. Je comprends, je ne comprenais pas, mais pourquoi ce regard? Mais oui, elle a l'air intelligente.
Absolument,
tout le temps.
Non, c'est pas du tout ça, c'est que je ne vois rien.
Alors, le racisme ne vient pas seulement des Belges, il est présent dans toutes les communautés. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais reformuler la question parce que je pense que quand Angélique dit le racisme ne vient pas seulement des Belges, là, je pense qu'on a deux personnes belges autour de la table.
Elle veut dire des Belges blancs, en fait. Est-ce que c'est des Belges blancs parce que je...
Oui, j'imagine.
Est-ce
oui,
que c'est ça. Ça, oui. Est-ce que ça vient aussi des...
Oui, ouais. Il est présent dans toutes les communautés. Qu'en pensez-vous?
Attends, elle a deux questions. Ah, j'ai l'impression que l'on met tout dans le sac du racisme.
Est-ce que le non-respect des droits de l'homme est du racisme? Je pense que du coup, il faudrait peut-être revoir pour Angélique la notion
déjà,
de racisme.
Déjà, ouais, je pense que la question de... Les Belges ne sont pas blancs, en fait. Il n'y a pas d'identité, en fait, d'identification à la couleur de peau et au statut citoyen belge. Enfin, vous êtes les meilleurs exemples, puisqu'on a autour de la table deux personnes qui se définissent l'une comme racisée et l'autre comme noire.
Je suis née en Flandre, en plus.
Oui, c'est ça. Et je pense que toi aussi... Voilà, donc, oui. Donc voilà. Et après, si c'est la question du racisme anti-blanc qu'on nous pose...
Oui, je pense que c'est ça.
Nous vous invitons
à... Un chat.
Voilà, c'est ça. Je pense qu'on a un épisode qu'on a fait avec Maxime Servulle qui parle de cette question-là. On l'a développé sur un certain temps et je pense que c'est... Voilà, nous, on pense que ça n'existe pas. Et on peut vous l'expliquer dans cet épisode qu'on a fait avec Maxime Servulle.
Qui est professeur d'université, sociologue.
Voilà, et un autre épisode qu'on a fait avec Eric Fassin qui s'appelle « Check tes privilèges blancs » qu'on a fait la saison suivante. Et après, sur la question des droits humains, moi, je préfère la notion de droits humains plutôt que de droits de l'homme. Oui, l'antiracisme fait partie du respect des droits de la personne humaine, évidemment, mais je pense que le racisme, c'est un système de domination qui est le produit, en fait, d'une histoire longue, qui vient de l'esclavage, de la colonisation, et en fait, nous sommes tout autour de la table les héritières de l'histoire coloniale de nos pays respectifs, donc de la France et de la Belgique, et tous les préjugés qui nous visent, en fait, sont hérités de cette période-là, c'est-à-dire que les préjugés sur les femmes noires hypersexualisées, les femmes asiatiques hypersexualisées, les femmes d'origine nord-africaine, aussi hypersexualisées. Enfin,
toutes les sexuelles.
Il n'y a pas beaucoup d'imagination. Et tout, voilà, tous ces préjugés-là viennent, cette histoire-là. Et là, effectivement, voilà, c'est ça, en fait, dont on parle. Quand on parle de racisme, on parle d'une histoire qui date de plusieurs siècles.
Mais cette notion-là, je pense qu'on pourra la rappeler encore très longtemps, parce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre ce que c'est, en fait, le racisme et comment il s'est construit. Et le racisme anti-blanc, ça revient tout le temps. Hein,
ça revient tout le temps. Et la question du racisme intercommunautaire aussi, c'est quelque chose qu'on nous pose souvent. Et moi, par exemple, je peux dire très, très, très franchement, Angélique, que oui, en tant que personne asiatique, j'ai grandi avec des préjugés contre les femmes noires, contre les femmes d'origine algérienne, les femmes et les hommes, hein, d'ailleurs. Et ça existe. C'est pas parce que on vous dit que le racisme anti-blanc n'existe pas que les discriminations à l'encontre des personnes dans des communautés n'existent pas. Mais même dans l'impact de le caractère systémique de ces préjugés, de ces stéréotypes, de ces discriminations, il n'est pas comparable. Elle fait partie d'un système qui nourrit un système plus grand qui est celui du racisme, toutes catégories confondues.
C'est vrai, d'ailleurs, même dans les pays d'Afrique. Rogaïa, tu viens de quel pays, toi?
De Paris 19e.
Ton pays d'origine, pardon, excuse-moi, je reformule ma question mieux. Pardon.
Je
suis comme les autres, c'est horrible.
Alors moi, je suis pas venue, mes parents viennent du Sénégal et de Gambie.
On n'aime pas ça, moi je suis du Congo, là. Toi,
ah d'accord,
vous
ok.
Vous êtes les West Af,
je vois.
Mais, tu vois. Voilà, voilà.
Bon, vous voyez, Angélique, là, il y a clairement dans cette salle du racisme inter-africain.
Ah mais de ouf,
sur la question du racisme anti-blanc, en fait, je pense qu'il faut se poser la question de l'avantage et du bénéfice. Est-ce que c'est un désavantage d'être blanc, ou que ce soit, dans le monde? Effectivement, on peut, en tant que blanc, recevoir des insultes et des injures, mais c'est une interaction individuelle. Mais le fait d'être blanc ne nous prive pas d'opportunités professionnelles. Je pense qu'il n'y a pas un comédien blanc en Belgique qui se dise « Oh mon Dieu, je suis blanc, ça va complètement affecter la manière dont j'aborde les rôles qu'on va me présenter. »
Je ne pourrais pas faire d'accent.
Ce fameux accent blanc.
L'accent
donc,
blond.
Donc voilà, c'est ça qui est important. Mais voilà, merci pour la question. Mais vraiment, Angélique, on vous invite à écouter les podcasts qui sont consacrés à la question blanche, puisque c'est ce qui semble vous intéresser. Mais encore une fois, nationalité et couleur ne sont pas synonymes. Eh bien, merci beaucoup.
Ouais, on est arrivé à la fin cet épisode crossover, les grenades.
Merci beaucoup.
Kif Taras, pour le Bruxelles Podcast Festival.
Merci pour l'accueil des Français. On ne nous avait pas dit que vous étiez sympa, hein, on ne s'attendait pas à ça, mais finalement, pour des Françaises...
Et moi, je suis venue avec du chocolat. Hein,
c'est pour ça.
Moi, je suis venue les mains vides, c'est ça que tu veux dire.
Exactement, voilà.
Merci pour le chocolat. C'est mais le nom le d'un curry. Film, mais c'est aussi un remerciement sincère. Alors, vous qui nous avez écoutés, qui n'avez pas pu nous poser vos questions en direct, n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Que vous soyez français, française, belge ou belge, ça s'accorde très bien au féminin. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos questions. Si vous êtes choqués, pas d'accord, si vous estimez qu'on est allé trop loin ou pas assez, n'hésitez pas à nous les envoyer.
N'hésitez pas aussi à suivre les grenades RTBF et Cécile Djunga. Alors, je crois que tu es sur Twitter, tu es sur Insta.
Facebook, Instagram, voilà. Sur Blablacar.
Regardez
aussi.
Antidote sur France 2. France 2. Et Safia Kessas, son nouveau livre, Balance la grenade. qui est juste là sous mes yeux, mais pourquoi je la regarde? Voilà. Un regard féministe qui dégoupille la société. Il sera dans vos librairies.
À partir du 4 mars.
Le 4 mars. Édition Luc Pierre. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio, aujourd'hui en crossover avec les grenades RTBF, réalisé par Quentin Bresson et Adèle Itel Elmadani. Merci à Camille Regache et à Naomi Titi pour l'édition.
On se retrouve bientôt pour une plongée dans la question raciale. Merci Grace.
Merci Rokhaya.
Merci Cécile.
Merci Cécile.
Merci Safia.
Merci à vous.
Merci.